chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour L'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récente qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne, des livres en général donc, d'actualité, et d'abord le père Roger Willem qui vous présente un premier ouvrage.
Un premier livre, L'intranquillité de Marion Muller-Collard, paru aux éditions Bayard en octobre 2015. C'est une écrivaine. Elle a reçu en 2015 le prix Spiritualité d'aujourd'hui et Écriture et Spiritualité pour l'autre, Dieu. La plainte, la mémoire et la grâce, labor et fides. En relisant sa propre existence, mais également l'Évangile et de grandes œuvres littéraires, Marion Muller-Collard nous invite, dans ce très beau livre, à partager notre condition d'intranquille. Accueillir le dérangement, voire l'inquiétude, c'est lutter contre l'engourdissement qui nous ferait passer, dit-elle, à côté d'un trésor sans le voir. Elle résume sa pensée en disant cela que nous pourrions reprendre chacun d'entre nous au moment de nous réveiller le matin avec la difficulté peut-être de quitter notre lit, vivre la grâce de savoir être dérangé. Voilà un petit passage. Intranquille, donc. Je le fus depuis l'enfance, insubordonnée, questionneuse, pénible, inquiète, peu dupe du monde adulte, empêchée de tourner en rond, girouette pourtant, curieuse de tout, intolérante à l'injustice, insomniaque par vigilance, chercheuse obsessionnelle de solutions générales et contre la faim dans le monde en particulier. Le paquet de riz que je devais apporter à l'école me paraissait dérisoire, pour nourrir toute la Somalie, j'avais la folie des grandeurs et très peu de notions de géographie. Mais je voulais faire plus, faire moi-même, faire mieux. Je voulais changer le monde, je ne dormirais qu'une fois, le devoir accompli. Le devoir était monumental. Je dormais peu et somnolé, et il me fallait muer mon impuissance en chagrin. Ma rage en larmes pour trouver une brèche vers le sommeil. Et il y avait aussi cet univers démesuré qui disait infini. On disait infini et bon, oh, quel vertige quand on y pense. Et j'y pensais. L'insaisissable me filait sous le nez, telle une comète à la destination inabordable. Alors, on laisse au lecteur le soin de trouver ce qu'est cet insaisissable dans sa propre vie.
Thank you.
À mon tour, donc, un livre paru très récemment, en août 2016, aux éditions Fayard. Il s'agit des dernières conversations de Benoît XVI et des entretiens avec Peter Sewall. C'est un livre très important, et surtout parce qu'il est très émouvant. Les entretiens avec le journaliste Peter Sewall sont assez réguliers dans la vie de Benoît XVI. Je crois que c'est le cinquième ou quatrième livre qu'ils font ensemble. Il y a eu déjà Le sel de la terre en 1995, puis Dieu et le monde en 2001 et Lumière du monde en 2010. Benoît XVI revient ici sur les événements importants de sa vie avec une immense humilité et en toute simplicité. C'est un livre à la fois de souvenirs intimes depuis son enfance et un retour sur son parcours de prêtre, puis de professeur de théologie et d'archevêque de Munich jusqu'en 1982, date à laquelle Jean-Paul II l'appelle à Rome pour devenir préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et ce ministère qu'il conservera jusqu'à son élection au pontificat en 2005. Donc ce livre, je trouve important parce qu'il permet de comprendre à quel point on a pu dire d'innombrables sottises et calomnier cet homme tout au long de sa vie. C'est ce qui m'a touché le plus. C'est peut-être pas le plus important du livre, mais on se rend compte alors, il fait des mises au point paisiblement. Benoît XVI raconte ses problèmes avec déjà les confrères théologiens au Concile Vatican II, puis l'incompréhension qu'il a rencontrée, les reproches totalement injustes qui lui ont été faits, et des campagnes de propagande mensongère jusqu'à, c'est assez difficile de le croire, mais jusqu'à des complots pour le rendre suspect. Il faut aussi se rappeler à quel point les médias ont colporté des commentaires malveillants à propos d'une soi-disant appartenance au nazisme, alors qu'il a toujours combattu cette idéologie, mais aussi l'image de lui qui fut véhiculée comme conservateur, rétrograde, rigide et autoritaire, alors qu'il a toujours cherché à faire avancer l'Église pour la rajeunir en renouvelant la théologie, en lui donnant une forme plus vivante et accessible. Il fut le premier, en 1958, à tirer un signal d'alarme devant la déchristianisation rapide de la société occidentale. Mais cela lui fut durement reproché parce que personne ne voulait y croire. On l'a jusqu'à traiter d'hérétique, de franc-maçon, et j'en passe, vous trouverez tout ça dans le livre, c'est vraiment étonnant. On a dit de lui aussi pendant son pontificat qu'il était hostile à l'islam, alors qu'au contraire, il cherchait le dialogue avec eux, mais ça a été mal compris. On l'a aussi traité d'antisémite, de sectaire, à l'esprit étroit, alors qu'il faisait tout pour développer le dialogue interreligieux, l'écuménisme et aussi, bien sûr, l'unité des catholiques. Bref, voilà, je vous fais un portrait un peu triste, mais Benoît XVI a traversé tant d'orages, rencontré tellement d'opposition et d'incompréhension, qu'on ne peut que s'émerveiller de sa sérénité, de la paix intérieure et de la bonté, et surtout de la douceur avec laquelle il raconte tous ses problèmes. Et il reconnaît en souriant certaines insuffisances personnelles, bien sûr, dues à sa santé fragile ou à sa personnalité, car il dit qu'il a besoin de silence, de solitude, de prière, et il reconnaît son peu de charisme pour la communication et la vie publique. Il dit aussi avoir souffert de devoir assumer des fonctions pour lesquelles il ne se sentait pas particulièrement doué pour son pontificat. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour remplir ses missions le plus correctement possible, dit-il, avec dévouement et honnêteté, jusqu'au moment où sa santé fut tellement mauvaise qu'il préféra démissionner pour ne pas être une charge pour l'Église. Enfin, heureusement pour nous, en tant que Joseph Cardinal Ratzinger ou comme pape, Benoît XVI n'a jamais cessé d'écrire et de donner au monde des ouvrages essentiels pour le christianisme. Sa vocation de penseur théologien d'une immense valeur ne s'est jamais démentie. Et dans ce livre de souvenirs, nous pouvons prendre conscience aussi des relations qu'il a eues avec les plus grands penseurs du christianisme, comme de Lubach, Barthes, Urson Balthasar et bien d'autres. Donc, dans ces derniers entretiens, nous goûtons aussi un résumé de ses enseignements, comme s'il nous léguait un précieux héritage de sa spiritualité nourrie de la connaissance vivante du Christ et de la Bible, de son amour pour la liturgie, de son regard lucide sur l'Église et sur les défis de l'avenir. Et j'espère sincèrement que ces paroles ne seront pas vraiment les dernières, comme dit le titre, car nous n'avons pas fini de découvrir les richesses de cette intelligence quand même hors norme et de la foi immense qui la nourrit. Donc je vous rappelle le titre de ce livre, Benoît XVI, Dernière conversation, paru en septembre 2016 aux éditions Fayard.
Un autre livre que j'ai beaucoup apprécié, « Être là » de Véronique Dufieff, paru aux éditions Salvator au mois d'août 2016. Véronique Dufieff est une ancienne élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et maître de conférences à l'Université de Dijon. Auteure de plusieurs recueils de poésie, elle a publié aux éditions Salvator La souffrance est désarmée, c'était le prix 2014 du livre de spiritualité, et elle a publié en 2015 Bonjour vieillesse. Dans La souffrance désarmée, Véronique Dufieff racontait comment sa bipolarité était devenue un chemin de guérison spirituelle. Du bonjour vieillesse, elle faisait l'éloge de vie atteinte par la limite d'âge, mais abondante de bonté. Dans ce nouveau livre, elle nous introduit dans le secret de sa joie. Être là, avec soi-même et les autres. et humer à chaque instant un parfum d'éternité. Cet ouvrage, superbement écrit, est une invocation à ne fuir le réel sans aucun prétexte, mais plutôt à l'embrasser en étant pleinement présent en soi, aux êtres et aux choses de la vie. Et voici quelques lignes. Clair jour d'huit, ou plutôt encore clair jour d'œil. Il y a une quinzaine d'années, j'avais participé à un concours de poésie organisé par le bureau de poste du 6e arrondissement de Paris. J'avais tenté ma chance sous le pseudonyme de Claire Jourdeuil, qui déjà à l'époque était pour moi un vrai programme se résumant dans l'effort de vivre pleinement le jour d'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, selon une belle variante phonétique dont la résonance évoque la nécessité de faire son deuil de toute volonté de puissance pour accueillir le jour au lieu d'allumer les spots de la surexcitation fantasmatique. Deuil et clarté inscrivaient aussi leur contraste dans une identité fondée sur la conscience d'être infiniment fragile, manière de signifier que seul l'accueil inconditionnel du tout venant de la vie permet de recevoir celle-ci pour ce qu'elle est vraiment.
Je vous présente maintenant un livre de réflexion théologique écrit par deux pasteurs, éminents professeurs de théologie américains, et qui a été déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis. Il vient donc d'être édité en France en mars 2016, aux éditions du Cerf. Son titre français est « Étranger dans la cité ». Les auteurs sont Stanley Auerwas et William Willimon. Il est probable que ce livre ne connaîtra pas le même succès fulgurant qu'aux États-Unis, puisqu'il est écrit par des protestants et que les catholiques pourraient ne pas se sentir aussi concernés par les thèses audacieuses de ces auteurs. Mais ce serait une erreur de réduire l'importance de ce livre à une simple réflexion à l'usage interne de l'Église protestante, car le point de vue des dieux théologiens est tellement radical qu'il atteint les origines même du christianisme et que donc tous les chrétiens peuvent se sentir en fait concernés. Il s'agit d'abord d'une prise de conscience lucide de l'état de crise générale du monde actuel, dans lequel le christianisme est en perte de vitesse évidente, quelles que soient les confessions envisagées. Mais au lieu de se lamenter sur ce déclin historique du christianisme, les auteurs y voient une chance inespérée, une occasion pour l'Église de prendre conscience de ses erreurs et de retrouver un christianisme décapé et authentique qui renoue avec la ferveur des origines. Pour cela, il faut bien sûr prendre conscience des aberrations, les reconnaître, d'abord celles du monde moderne, dont le cynisme économique pousse des millions de gens vers la précarité et la pauvreté, des guerres pour lesquelles on trouve toujours de bonnes raisons, ou simplement l'abêtissement du plus grand nombre poussé à trouver le bonheur dans la consommation à outrance et dans l'esclavage des désirs sans cesse suscités par une propagande commerciale débridée. Quel rapport avec l'Église, direz-vous ? Mais c'est justement là ce que dénoncent les auteurs. Les compromissions de l'Église avec ce monde tel qu'il est. Soit en ce qui concerne les plus conservateurs, pour préserver la tranquillité et ne pas être dérangés dans l'intimité de leur foi. Soit, disent-ils, en ce qui concerne les plus libéraux, eux qui sont engagés dans le salut du monde par une charité, mais souvent mal comprise, et une tolérance sans discernement. Donc, ces auteurs préconisent de sortir de ces liens quasi pathologiques avec le monde en choisissant une troisième voie, au-delà de la dualité gauche-droite, par un retour absolu aux enseignements de l'Évangile pour refonder une Église réellement fidèle à Jésus-Christ, une Église qui devienne une présence forte, qui conteste le monde avec des valeurs différentes et une contre-culture suffisamment crédible pour constituer un témoignage, qui ferait changer le monde plutôt que de se laisser envahir par lui à force de concessions. Alors, résumé comme ça, ce livre, on pourrait penser qu'il s'agit là quand même de paroles faciles, de rêves d'utopistes un peu déconnectés du réel. Mais ce n'est pas le cas. Il y a dans ce livre une analyse extrêmement poussée de la situation actuelle et des moyens d'en sortir. Donc, ces théologiens font une critique constructive et pleine d'espérance, en présentant une manière renouvelée d'être chrétien dans un monde qui change radicalement. Alors, il y a quelques pistes suggérées, j'en donne quelques exemples, comme d'abord, parce que ça me touche de près, renoncer à lire la Bible uniquement à travers des filtres scientifiques et philosophiques, et prendre au sérieux les racines juives du christianisme. Et il propose aussi de revivifier la prière pour qu'elle fasse vraiment changer nos vies. Redonner aussi une force au ministère pastoral. Rebâtir l'Église autour des évangiles pour qu'elle témoigne du royaume de Dieu autrement que par des slogans, mais par l'exemple d'une humanité transformée par la présence de Dieu. Donc une communauté humaine, où fraternité et amitié ne sont pas en option, disent-ils. Je dirais, pour faire bref, par le raccourci de proverbe que les deux auteurs nous invitent d'abord à balayer devant notre porte avant d'appeler le monde à entrer. Ensuite, l'autre proverbe, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire qu'il faut d'abord construire une église forte, refaire des bases capables de s'opposer aux folies du monde et pour cela de suivre Jésus en disciple authentique, car c'est en fait le meilleur moyen, disent-ils, de lui faire de la publicité. Bref, je termine en revenant sur le fait qu'il s'agit d'un livre écrit par et pour des protestants, mais que l'Église catholique, claire comme laïque, se trouvera bien de le lire pour réfléchir à cette analyse décapante qui ne peut de toute façon que nous faire progresser. Je vous rappelle le titre de ce livre, « Étrangers dans la cité », des théologiens américains Stanley Auerwas et William Willimon, paru au CERF en mars 2016. Et je vous dis à présent au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.